Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici à ce troisième entretien avec André Lecossois, de Rennes-le-Château à la légende du grand monarque.
Ça fait quelques années, à l'occasion de mon travail, j'ai donc habité à Rennes-le-Château et puis dans la région de Limoux, dans le sud de la France.
Alors, pour votre travail?
Pour mon travail en tant que journaliste dans le groupe Midi Libre, donc pour les deux titres, Midi Libre et l'Indépendant. Et sur ce petit village, circulent depuis bientôt trois décennies des gens qui viennent du monde entier. Il y a même des autocars de japonais qui défilent avec évidemment les téléobjectifs, et les appareils photo, et qui prennent tout en photo et repartent à toute vitesse, après n'avoir rien vu, bien sûr. Mais et là, dans ce petit village, bien, il semblerait qu'une partie des plus grands mystères de l'humanité se soit concentrée là, dans cette zone. Alors un de mes confrères qui s'appelle Gérard de Sède, qui s'appelait Gérard de Sède, puisqu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2003. Et Gérard de Sède avait écrit un ouvrage consacré à Rennes-le-Château, et là il révélait qu'un prêtre, Béranger Saunière, à la fin du 19e et début du 20e siècle, avait subitement, du jour au lendemain, alors qu'il était pauvre comme Job, il avait érigé des bâtisses assez étonnantes, dont une villa qui s'appelle la Villa Béthanie, dans laquelle il voulait recevoir les prêtres en convalescence ou les prêtres en retraite. Et puis il avait installé aussi une tour qu'il avait appelée la tour Magdala. Il avait installé aussi tout un périmètre avec des orangeries. Il y avait un petit zoo privé avec des singes, des perroquets de toutes les couleurs. Il avait vraiment des animaux assez extraordinaires, exotiques. Ouais. Il faut savoir que ce coin de l'Aude, en particulier au 19e et 20e siècle, était vraiment un endroit très très pauvre. Et pourquoi, alors que c'est un endroit qui est loin de toute zone urbaine, éloigné de toute zone de circulation intense, pourquoi aurait-il construit ces monuments assez extraordinaires alors que personne ne les voyait? Et surtout, avec quel argent aurait-il pu les construire? Parce que ce brave homme gagnait l'équivalent de 7 francs par mois, 7 francs or, ce qui est une petite somme, très petite somme.
On l'avait accusé de faire le commerce des messes.
Alors on l'avait accusé en effet de faire le commerce de messes, et sauf que quand on reprend ces livres de messes, on se rend compte que la somme est loin d'être juste. Alors l'argument c'est justement, mais il en rajoutait et il ne les faisait pas. Eh bien non, de toute façon, ça n'explique pas les sommes, parce qu'on peut considérer en valeur actuelle, enfin en francs, je vais avoir du mal à faire la transaction en euros, mais à 30 ou 40 millions de francs lourds, ce qui était une somme phénoménale pour l'époque. Et puis...
6 millions de dollars,
à peu près. C'est ça, ouais. Et ça reste d'ailleurs toujours une somme importante. Et alors que ce type était d'une famille modeste, hein, qui était installée à Antignac, qui est un petit village à côté d'Esperaza, au pied de la colline de Rennes-le-Château. Et il a fait le petit séminaire, le grand séminaire. Il n'était pas d'ailleurs un élève très brillant, mais enfin bon, il a réussi quand même à obtenir un poste. Et il a été muté en premier poste à Rennes-le-Château, donc presque en face de chez lui. Et là, alors qu'il était pauvre, très très pauvre, après avoir décidé la restauration de sa petite église, l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Rennes-le-Château, il semblerait que lui et quelques modestes employés communaux auraient déplacé une dalle, qui vraisemblablement était l'autel le plus antique de l'église, et là, il serait tombé, outre sur des sculptures au revers de l'autel, il aurait aussi découvert dans les pieds qui supportaient l'autel, il aurait découvert des parchemins. Alors ça, c'est la version Gérard de Sède.
Mais des parchemins, ça rapporte pas beaucoup d'argent.
Ça rapporte pas beaucoup d'argent.
C'était pas un coffre avec des pièces
c'était
d'or.
C'était pas un coffre avec des pièces d'or. Et selon Gérard de Sède, mais là, il y a beaucoup d'informations qui ont été jetées en pâture sans véritablement donner de raison, ni d'explication, ni de vérification de l'information. Mais Gérard de Sède affirme que Saunière avait constaté que les parchemins détenaient des messages en latin, des messages cryptés. Il lui-même ne se sentait pas capable de les décrypter. Son confrère de Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet, lui aurait conseillé d'aller voir Émile Offet à Paris. Et Béranger Saunière se serait en effet dérangé. Et il semble même que ce soit le diocèse qui ait payé les frais de déplacement de Béranger Saunière. Bref, toujours est-il qu'après son voyage parisien, le prêtre revient armé de tout un tas de connaissances ésotériques, entre guillemets, Et presque du jour au lendemain, il y a une manne financière qui lui tombe dans les mains. Alors les braves gens du pays ont dit, ben, ça y est, le curé a trouvé un trésor. Ça, ce sont les ouailles de Rennes-le-Château qui ont dit ça. Mais d'autres versions, dans les milieux ésotériques en Europe, prétendent que Béranger Seigneur a été financé probablement par un prince de Habsbourg, la famille de Habsbourg. D'autres prétendent aussi qu'il a été financé par l'Église apostolique et romaine. D'autres enfin prétendent qu'il aurait été financé par l'ordre rosicrucien, qui n'était pas à ce moment-là l'ordre rosicrucien à Marc. Donc voilà.
L'intrigue aussi du Vatican qui envoie un inspecteur chargé par le Vatican à Rome, et c'est nul autre que Angelo Roncalli.
Ben oui.
Puis Angelo Roncalli, qui est un petit prêtre de campagne,
il en a eu curieusement,
après, il retourne là-bas, les prophéties de Jean XXIII, car il deviendra le fameux pape Jean XXIII.
Ouais. Ouais.
Encore un autre.
Ben oui. Il semblerait que Rennes-le-Château a cette faculté d'attirer les grands personnages, en tout cas. Quelques décennies après Jean XXIII, il y a aussi notre fameux président défunt, qui se faisait appeler Dieu.
Ouais, c'est vrai.
Le Mitterrand, le français Mitterrand. Eh bien,
François.
Juste avant son élection en 1980 pour son premier poste au premier magistrat de France, il est allé à Rennes-le-Château, et là il a été d'ailleurs photographié par tous les journalistes qui étaient en place, y compris mon confrère André Gallo, qui à l'époque était chef d'agence pour le Midi Libre à Limoux. Et il était toujours en bonne compagnie, François Mitterrand. Il a eu une vie toujours très ritualisée. Il consacrait sa présidence et sa vie d'homme à tout un tas de rites. Ainsi, on le voyait accéder à la roche de Solutré, qui est une roche tellurique très très importante, où il était toujours accompagné de Jack Lang et de tout un tas de gens de sa brillante cour, parce qu'il était vraiment très courtisé, et il aimait ça d'ailleurs. Il se la jouait comme ça. Et donc, juste avant son élection au poste de président de la République, il est allé se recueillir à Rennes-le-Château, et à un moment donné, il a refusé que la presse continue
de
le suivre et de lui poser des questions. Et il a aussi demandé à sa cour de premier courtisan de le laisser en paix. Il s'est recueilli, il s'est enfermé dans l'église de Rennes-le-Château, et là, on a su que le lendemain, il était en effet le nouveau président de la République. Alors que tous les sondages donner Valéry Giscard d'Estaing comme étant commençant un deuxième mandat. Quoi.
Moi, je vais essayer des pistes originales, peut-être. Je sais pas. Les cagots.
Ah, les fameux cagots. Oui.
Parce que quelle est votre idée sur les cagots?
Ben, les cagots étaient,
on entend très peu parler,
étaient toujours considérés comme une caste de pestiférés. C'est-à-dire qu'ils avaient, même dans les églises, un coin qui leur était réservé. Ils n'avaient pas le droit d'être en contact avec le reste
de la...
C'est ça. Alors les cagots étaient quoi en fait? Ils étaient dans le sud de la France, les dépositaires de la tradition et de la philosophie des druides. Il faut savoir que la fameuse pape d'oie, qui est le signe des cagots, est aussi le triban druide, le triban qui représente les trois cornes sacrées du cerf, le cerf représentant pour les Celtes le renouveau, la renaissance. Et donc les cagots, c'est ça, c'était pour le sud de la France les garants de cette tradition de la philosophie des druides. Oui.
Live long and prosper.
Ouais.
Vous savez de Spock?
Oui, bah c'est comment ils appelaient Spock. Et
Spock. Spock de Star Trek, oui.
Ouais.
C'est parce qu'on dit que les cagots sont peut-être extraterrestres.
Bah.
À l'origine de l'histoire, ils descendaient du ciel avec des véhicules qui faisaient un vacarme, et puis les gens en avaient peur, ils les ont traités de pestiférés, ils en ont cloué sur des planches, ils les ont envoyés sur la rivière.
C'est ce qu'on dit toujours des druides, alors on dit dans d'autres régions de France qu'en Bretagne, mais les druides tiennent leur philosophie d'un dieu qui s'appelait le dieu Dagda, et qui est un dieu qui appartenait au Tuatha de Dana, c'est-à-dire aux tribus de la déesse Dana. Et les fameux tribus de la déesse Dana seraient en effet des créatures extraterrestres arrivées avec des vaisseaux spatiaux énormes.
À quelle époque?
À une époque qu'on peut situer à 6-7 000 ans avant l'ère du Christ. Et,
il y a 8 000 ans.
Ouais, c'est ça. Alors, la première vague des Celtes était une vague de tribus nomades venues du Caucase. et il serait arrivé jusqu'aux côtes occidentales du continent européen, y compris d'ailleurs sur les terres d'Irlande.
À quelle époque ?
Oh ben là, on peut compter à 10 000, 15 000 ans, hein, quand même, avant le Christ. Et c'était vraiment
la fin des glaciations.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment des tribus très très primitives. Et ça a donné en fait les tribus celtes qui sont restées après, qui sont installées et qui ont donné les nations celtes, que sont la Bretagne armoricaine, le Pays de Galles, l'île de Man, l'Écosse, l'Irlande, Galice et Asturie. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Galice et Asturie qui se trouvent en fait au nord de l'Espagne, au nord-ouest de l'Espagne. Où se trouve d'ailleurs à l'heure actuelle Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago, le chemin des étoiles. Enfin, ça, c'est autre chose. Et donc, les Cagots, oui, voilà, c'est ça, étaient probablement les garants, les descendants de la tradition druidique. Et ils avaient eu des liens avec les Cathares. Cathares qui vient de catharsis, les purs. Et comme les druides.
Les Cagots, les surnommaient les Christiens.
Oui, mais donc voilà, c'est. Mais dans l'histoire de Rennes-le-Château, ils n'ont pas un rôle clé.
Ben non, il suffit qu'un Gérard de Sèvres passe à côté ou qu'un autre passe à côté, puis finalement on leur donne pas de rôle.
C'est pas que Gérard de Sèvres soit passé à côté, c'est qu'on lui a dit de passer à côté. Il ne faut pas oublier que dans toute l'histoire de Rennes-le-Château, dans la symbolique, on retrouve la reine Pédoque. La reine Pédoque qui était qui ? La reine des Cagots, celle qui avait un pied d'oca, un pied d'oie. Et qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouve son tombeau à la Dorade. La Dorade, c'est un monument, un temple, on peut dire ça, qui se trouve à Toulouse, la ville rose, où le maître Giscard était un grand initié de la franc-maçonnerie. Et c'est lui qui avait moulé toutes les statues en plâtre et toutes les figures du chemin de croix de Rennes-le-Château et de toutes les églises de la région. On retrouve ce lien absolument phénoménal. Et la reine Pédo, c'est vraiment la reine du Midi, la reine du Milieu, la reine du Sud, qui a de grands liens avec la reine des Saintes-Maries de la Mer, qui, vous savez que les Gitans, par migration presque magnétique, se retrouvent tous les ans au mois de mai, le mois de la Sainte Vierge évidemment, se retrouve en convergence au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais aussi à Sainte-Marie-de-la-Mer, qui se trouve juste à côté de Perpignan, et qui est dans le prolongement de Rennes-le-Château. C'est juste à côté de Rennes-le-Château. C'est Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le pic de Bugarache et Sainte-Marie-de-la-Mer. Et dans cette migration, ils reviennent en fait sur les pas d'une lignée tout à fait étonnante, historique, mais aussi religieuse et philosophique. C'est la lignée du Christ. Parce qu'ils prétendent que le Christ aurait abordé les côtes de la Gaule et serait venu mourir au pied de Rennes-le-Château, où il y aurait un temple. Alors, c'est là-dessus aussi qu'ont joué les fameux auteurs anglais sur le temple retrouvé. C'est qu'il y a véritablement un temple qui abrite non seulement le corps du Christ, mais aussi tous les objets sacrés, c'est-à-dire le Saint Graal. Et ils ont écrit d'ailleurs un autre bouquin qui s'appelle « The Holy Grail », si je me souviens bien. La Ménorah, le fameux chandelier à ses branches, et surtout l'Arche d'Alliance et les Tables de la Loi. Et tout serait installé là. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'est installé où, à quel endroit ? Alors, bon. Et il y a un ouvrage clé qui est vraiment très très intéressant, qui s'appelle « La vraie langue celtique », qui a été écrit par l'abbé Boudet. Ouais. Et dans cet ouvrage, où il y a une forme de, ouais, on va dire, de cabale linguistique, lui, il appelle ça la langue punique. Donc le pun, c'est l'humour un peu, c'est les jeux de mots. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin-là, c'est qu'il était accompagné de cartes, de cartes géographiques. Et quand on utilisait un miroir, en le plaçant sur certains endroits bien précis de la carte, là, on avait des figures qui apparaissaient, des dessins, des images. Et en particulier, le fameux diable qu'on retrouve à l'intérieur de l'église de Rennes-le-Château. Le diable que tout le monde, depuis Gérard de Sèvres, a appelé, évidemment, Asmodée. Or, c'est pas du tout Asmodée.
D'où ça vient, Asmodée ? Pourquoi on l'a appelé Asmodée ?
Bah parce qu'on a dit à Gérard de Sèvres, bah ce diable-là, il s'appelle Asmodée, point à la ligne, ne réfléchit pas.
Parce qu'Asmodée, c'est dans la tradition, c'est le gardien du trésor de Jérusalem. C'est le fils de Tubal-Cain, je pense, qui lui-même est le fils de Vulcain, c'est ça?
Oui, et ça permettait surtout d'alimenter toujours l'idée de trésor, donc encore une fois de noyer le poisson et d'envoyer les gens sur une mauvaise piste. Ah voilà, bon, l'image est de très mauvaise qualité, j'en suis désolé, c'est de la faute de mon éditeur et de l'imprimeur. Mais voici le diable de Rennes-le-Château, et voici son double.
Mais ça, ici, il faut bien préciser que c'est celui qui était à l'origine, parce qu'il était brisé.
Alors, il a été brisé à maintes fois. On a commencé déjà par lui retirer les yeux. Il y a des espèces de fous qui étaient persuadés que derrière les yeux, il y avait un mécanisme. Donc les yeux ont été enlevés. Et puis après, c'est la tête qui a été décapitée.
C'est ça. Donc, le portrait qu'on voit aujourd'hui n'est pas tout à fait exactement celui qui était à l'origine, qui est bien ça.
Ben, c'est plus le même moulage, mais non. Bon, c'est copie conforme quand même. Et, pendant de longues années, je crois que pendant pas loin de 10 ans, il a été protégé aussi par un bloc de plexiglas qui essayait de préserver de toutes sortes de dégradations. Mais voilà, on se rend compte que Giscard, donc le maître de Toulouse, quand il a moulé ce modèle de diable qui porte le bénitier et les anges aussi qui décomposent le signe de croix, eh bien, il s'est inspiré tout simplement de ce diable-là, qui s'appelle Eurynome. Et Eurynome est un personnage intéressant. Alors là, on le retrouve dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy. Hein, ça a été publié en 1863, c'est-à-dire en plein dans l'époque où Béranger Saunière et toute la bande, Giscard et compagnie, étaient en train de préparer le terrain pour laisser des messages. Hein. Donc, il est évident qu'un type, ne serait-ce que, sans parler de Saunière, qui n'avait probablement pas une connaissance théologique et théorique très très brillante, mais Boudet, lui, était vraiment un maître en la matière. Boudet ne pouvait pas ignorer que ce diable-là, donc celui-ci, était Eurynome, mais non pas du tout Asmodée. Alors, je vous en conjure, arrêtez d'appeler ce diable-là Asmodée, c'est bien Eurynome dont il s'agit. Et Eurynome, en cabale phonétique française, ça veut dire heure, il nomme. Et quand on sait que Béranger Saunière avait un projet, et ça je peux vous l'attester, parce que j'ai fait un reportage à l'époque pour Midi Libre, auprès de la descendante de l'entrepreneur qui avait fait toutes les constructions de Béranger Saunière, et elle m'a montré les devis établis par son arrière-grand-père pour le prêtre, il avait le projet de fabriquer, d'ériger une nouvelle tour qu'il aurait fait en bibliothèque, qui était 4 fois plus grosse que la tour Magdala. Et cette tour-là, il voulait l'appeler la tour de l'horloge. Et toujours en cabale phonétique française, c'est ici l'horloge. Et quand on ne fait plus abstraction de ce genre de données, là, l'histoire de Rennes-le-Château prend un sens tout à fait nouveau. Et il y a aussi une chose, moi, qui me paraît intéressante, c'est que dans l'église Sainte-Marie-Madeleine, quand on est face à l'autel et qu'on s'approche de l'autel, juste à droite, il y a une statue de Saint-Antoine de Padoue qui est maintenue sur un pavois, qui est le symbole de la royauté française et pas d'une autre royauté, eh bien, ce pavois avec Saint-Antoine de Padoue est tenu par 4 anges. Or, ces 4 anges ont, grosso modo, le même aspect, le même port, la même attitude, sauf un seul. C'est celui qui est caché, qui est derrière. Il a le genou dénudé. C'est toujours le symbole de l'initié, de celui qui a dépassé la maîtrise et qui est maintenant entré dans la connaissance. Et il regarde un endroit bien précis. Il regarde au-delà du mur et il y a en effet une petite porte qui permet d'accéder à une petite sacristie où là les prêtres pouvaient se changer et accrocher les vêtements sacerdotaux dans une armoire. Et l'armoire en question contient un double fond qui mène à une petite pièce secrète qui elle-même mène à un souterrain. Pardon ?
Probablement la crypte.
Ben c'est une crypte et là personne ne peut y accéder. Moi j'ai eu cette chance de pouvoir y aller avec André Gallo quand nous étions journalistes. On a tourné d'ailleurs des images de ça et seul André Gallo a ces images-là pour l'instant. Et là je peux vous garantir que le sous-sol de Rennes-le-Château, eh bien c'est quelque chose. C'est un vrai gruyère et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont fait péter le coin à coups de dynamite, y compris en pleine nuit. Ce qui a incité d'ailleurs l'édile de la commune à promulguer des arrêtés pour que cesse enfin ce...
Oui. Est-ce que Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Padoue, c'est le patron des causes perdues. Ce qui est étrange, c'est qu'il regarde, il tient dans un livre ouvert, comme si un enfant sortait d'un livre, et il est face à la chair.
Oui.
C'est comme s'il y avait deux enseignements. c'est étrange parce que c'est comme s'il tenait une chair, mais cette chair-là, c'est la chair de quelqu'un, puis elle sort d'un livre.
Oui, et qu'est-ce qu'il tient aussi dans le bras? Qu'est-ce qu'il a de coincé?
Ah, je me souviens
un bouquet de fleurs de lys.
Ah.
Qui est le symbole de la royauté française. Et donc pour moi, c'est une évidence. On tient absolument à nous mettre sur la piste de cette lignée mérovingienne, qui est une lignée qui n'est pas tout à fait ordinaire. Et comme le disait à juste titre d'ailleurs Gérard de Sède, c'est une lignée qui a été anéantie. Ce sont les vrais rois fainéants, hein, on connaît le fameux roman de Maurice Druon. Et ils ont été anéantis parce qu'ils étaient de lignée divine. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des rois tout à fait normaux, c'était des rois probablement d'origine extraterrestre. Et là, on en revient toujours, vous allez dire, bah, évidemment, lui, il a son parti pris avec ses Celtes, mais on en revient toujours aux lignées sacrées Celtes et aux fameuses Tuatha Dé Danann. Et il ne faut pas oublier que les Celtes, s'il y a eu ce mouvement d'aller vers les côtes occidentales de l'Atlantique, une fois que les Tuatha Dé Danann se sont installés, ils sont croisés et multipliés avec les tribus en place, ils sont redescendus.
Mais ceux qui disent que les tribus qui se sont mélangés à eux sont ceux qui venaient d'Arcadie, qui avaient été chassés justement de Palestine ou de terre de Canaan, la fameuse tribu de Benjamin, les Benjamites. En Arcadie, d'Arcadie monte avec le Danube jusqu'en haut.
Oui.
Un lien avec les Sicambres, peut-être.
Non? Ben, les Sicambres, c'est ça. C'est une des lignées. Il faut savoir que la France, la Gaule n'existait pas. Non, c'est Jules César qui a dit. Ben voilà, cette partie-là va s'appeler la Gaule. Mais il disait bien aussi que les Gaulois étaient composés en fait de multitudes de tribus celtes. Et il voulait absolument les réduire à néant, là aussi, parce que les Celtes étaient dirigés non seulement par des rois ou des princes de tribus, mais avant tout par les druides, dont l'étymologie veut dire « druides, les très savants ». Et ils étaient vêtus de blanc, qui était non pas le symbole d'une connaissance absolue, mais c'était avant tout le symbole de pureté. Et là, on retrouve l'idée des cathares, encore, qui étaient eux aussi vêtus de blanc. Et bien sûr, les Templiers, et les Franciscains, beaucoup plus tard. Oui.
Puis les cagots, puis la reine Pédoc, vous direz comment ça s'écrit?
Oui.
Le jeu de loi qui existe en France, puis les contes de ma mère, est-ce que c'est d'inspiration cagot ou bien celle, ça?
C'est indissociable les uns des autres. Bien sûr, les contes de ma mère loi sont des contes tout à fait initiatiques. Alors je vous recommande vraiment, si vous avez l'occasion de retrouver un ouvrage avec l'édition complète, c'est-à-dire avec tous les contes dedans, de les lire attentivement et d'essayer de retrouver par jeu de mots kabbalistiques les symboles qui se retrouvent dedans. C'est vraiment tout à fait surprenant. Et Pédoc, ça s'écrit P-E-D-A-U-Q-U-E. C'est ça, j'en ai pas oublié. Oui. Qui vient donc de l'occitan Pédoc, hein, qui veut dire piédois. Voilà. Et c'est vrai que les lois, bon, on le voit bien, quand elles marchent, elle a sa patte palmée avec les trois doigts qui sont bien imprimés sur le sol. Et c'est exactement le symbole qu'avaient les cagots, mais qu'ont toujours les druides à l'heure actuelle. Le grand druide de la Gorsette d'Igor le porte, lui, sur un turban de velours noir, et il le porte en fil d'argent brodé dessus.
Est-ce qu'en France existe un livre sur l'histoire des cagots, les familles, les généalogies?
Non. Il y a quelques ouvrages qui en parlent, mais très très brièvement.
Ils ont existé pendant des générations. Oui. Des générations, c'est pas quelque chose qui est arrivé juste une fois.
Non, mais par contre, ils ont été eux aussi persécutés par toutes les lignées royales usurpatrices, puisqu'il faut savoir. Et là, je suis bien placé pour en parler, si je puis me permettre de donner ma petite touche personnelle. Mon épouse est descendante de la lignée royale française de la dernière lignée, c'est-à-dire les Bourbons, et qui sont une lignée d'usurpateurs, c'est la dernière lignée d'usurpateurs. Il y a cette fameuse légende aussi qui court, où on dit que quand Louis XVI a été décapité, il y a quelqu'un qui a crié dans la foule
«
Demolay, tu es vengé ». Puisque de Molay était justement avec l'ordre des Templiers en opposition avec le pouvoir des usurpateurs et essayait de mettre en avant la lignée mérovingienne qui devrait revenir. Quelqu'un me parlait tout à l'heure du grand monarque, du retour du grand monarque. Le grand monarque, c'est probablement, ça semble converger, le retour de la famille mérovingienne au pouvoir, d'une façon ou d'une autre. Mais par quel moyen, ça ne me le demandez surtout pas, je ne mêlerai pas d'inventer quoi que ce soit ou de jouer les prédicateurs. Mais de toute évidence, il semblerait que la lignée mérovingienne doive revenir sur le devant de la scène à un moment ou à un autre. Alors on peut trouver ça tout à fait extraordinaire dans cette France républicaine en diable. C'est pas pour rien qu'il y a le diable à Rennes-le-Château. Mais on ne sait jamais. Il y a eu d'autres bouleversements, d'autres renversements. Et par contre, Dagobert II était aussi probablement le seul monarque, et le dernier, en tout cas jusqu'à nos jours, à avoir à la fois les pouvoirs du roi, mais aussi les pouvoirs du druide. Il incarnait les deux aspects, spirituels et temporels. Et forcément, ça ne pouvait pas plaire à tout le monde, surtout en pleine époque où l'Église apostolique et romaine était en train de prendre une place politique.
C'est ce qu'on dit du grand monarque aussi. Oui. Il sera à la fois roi et mage. Roi-mage.
C'est ça, roi-mage. Ouais. C'est l'un des rares, avec Saint-Louis évidemment, l'un des rares rois qui a été canonisé. Et c'est le seul qui passe d'ailleurs totalement inaperçu. Regardez même dans le dictionnaire, je ne suis pas sûr qu'on mette que ce canon est canonisé. C'est vraiment des devers de vous. En Galilée, pour reprendre une vieille chanson. Et en Galilée, c'est en Gaule, il est. Par jeu de mots encore.